Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, une époque est close. Elle l'est en bien des domaines de la vie coloniale. En histoire, les grandes époques n'ont pas la bonne habitude de suivre. L'année 1672 marque une évolution dans la vie de la Nouvelle-France. La période de l'essor s'arrête court. À qui, à quoi, attribuer cette courbe trop soudaine? Au point où en est arrivée la colonie, quelques mesures ou décisions s'imposent d'urgence à ceux qui ont les yeux ouverts. Par achat, échange ou conquête, éliminer les colonies rivales du Sud ou fortifier en hâte la Nouvelle-France, faire qu'elle grandisse à même allure que ses voisines. L'achat de Nouvelle-Hollande, la conquête de la Nouvelle-Angleterre, projet où n'ont cessé de s'accrocher pendant près d'un siècle quelques-uns des plus grands esprits de la colonie, Champlain, Talon, Duchesneau, Demeulle, Denonville, Frontenac, Iberville, Callière. Pour tous ces observateurs, le voisin du Sud se développe, avance d'un pas qui effraie. Leur approche croît-il, où il fera sauter ses frontières, débordera les Alleghanies. Ce dilemme se pose donc aux Français, ou prendre les moyens suprêmes de rester en Amérique ou en sortir. D'autre part, fortifier l'établissement de la vallée du Saint-Laurent, centre de gravité de l'Empire, cela voulait dire continuer sans arrêt la politique organique de Talon, accélérer le peuplement de la vallée, en développer en longueur et en largeur le domaine agricole, mener de front l'exploitation des ressources forestières, poissonnières et minières, maintenir les industries de première nécessité, organiser un commerce à marché lointain. Cela voulait dire encore garder ouverte à la colonie et du côté de l'Atlantique et du côté des Grands Lacs ses voies respiratoires, la bâtir sur un axe qui serait l'axe Terre-Neuve, Acadie, Québec, Montréal, Miquelimackinac et autres pays de l'Ouest. Politique qui exigeait beaucoup d'hommes et beaucoup de capitaux, mais politique qui ne souffrait pas de délai. Sinon, ce n'était pas seulement la disproportion constamment accrue entre l'homme et sa tâche, mais c'était l'homme écrasé par sa tâche. Et l'Empire, mal développé et mal gardé, offrait aux rivales l'irrésistible tentation. À la cour de France, on fut d'avis que l'urgence pouvait attendre. Et on la fit si bien attendre que l'heure favorable passa. Vers 1672, l'achat de la Nouvelle-Hollande n'est pas transaction aussi chimérique qu'il peut le paraître. Contre l'ennemi commun, l'Espagne-Autriche, la France et les Pays-Bas entretiennent des relations amicales. En Angleterre, le Stuart, plus ou moins pensionné par Louis XIV, ne jalouse que médiocrement le voisin d'Outre-Manche, puissance navale et coloniale encore trop modeste pour porter ombrage. En revanche, l'achat de la colonie hollandaise ou son échange contre d'autres gages devenait hors de saison après le traité de Nimègue et surtout après l'installation de Guillaume d'Orange sur le trône des Stuarts, alors que les deux puissances maritimes, Angleterre et Hollande, allaient se dresser contre la France. En Amérique, la Nouvelle-France n'aura donc à se résigner à son sort face à ses voisins. Va-t-on au moins s'appliquer à la fortifier en hommes et en capitaux, lui fournir les moyens de gagner le rival en avance et en force? La nouvelle politique du roi n'en est pas une de désintéressement absolu, encore moins d'abandon. Avec autant de ferveur qu'auparavant, Sa Majesté recommande aux administrateurs, gouverneurs et intendants de veiller au peuplement de la colonie et à son développement économique seulement. Et le seulement est ici de conséquence. Sa Majesté entend que la colonie voit elle-même à son développement. Par exemple, auprès des immigrants possibles, elle seule se chargea de sa publicité, publicité qui lui est prescrite de faire par l'appât de ses richesses, par le prestige de sa prospérité et par la qualité de son gouvernement. Politique nouvelle qui n'a que le tort de se nourrir de chimères. Nous avons assez dit quels obstacles, pour ne pas dire quels épouvantails, avaient à vaincre en France toute propagande en faveur du Canada. Au lendemain de 1672, pour des hommes que ne chassaient de l'Europe ni la persécution religieuse ou politique, ni l'extrême misère, quelle pouvait être l'attirance d'une colonie encore vagissante et pauvre, dépourvu du mirage des Eldorados. Quelle autre illusion que de traiter comme un pays adulte en rejetant encore dans l'enfance et rester, du point de vue économique, au stade colonial, incapable de se passer de l'assistance technique et financière de la métropole. Il ne parut point davantage que l'on voulut fortifier l'axe vital de la colonie. Terre-Neuve ne fut occupée que partiellement. On laissa les Anglais s'établir au point stratégique de l'île pour entreprendre ensuite de les en déloger. On ne fit pas mieux à l'égard de l'Acadie. Le corridor Lévis-Pentagouette, prôné par Talon pour relier les deux colonies, ne fut jamais achevé, ni même sérieusement ébauché. Ni peuplé, ni vraiment défendu, l'Acadie resta la colonie minable que l'on sait, isolée au bord de l'Atlantique, entraînée dans la dépendance des Anglo-Américains. Du côté de l'Ouest, vers les sources du Saint-Laurent, même politique imprévoyante et impuissante, la Nouvelle-France ne prit que faiblement possession du lac Ontario. Faute de population pour y jeter au moins des embryons de paste, les charnières des lacs resteront longtemps inoccupées, nœuds de routes magnifiques, mais s'articulant dans la solitude, postes stratégiques sans fortification ni vie. L'Empire, en sa partie occidentale, s'établira même dans les débuts par les voyageurs, les trafiquants et les autorités coloniales, souvent contre le gré des autorités métropolitaines. Toute cette politique paraît si déconcertante et irrationnelle qu'on ne sait vraiment où en chercher l'explication. Coïncidence singulière, ce brusque revirement se produit à l'apogée de la puissance française. C'est lorsque la France est devenue l'arbitre de l'Europe qu'elle commence à faiblir en Amérique. Et c'est bien ici même, et non pas tant en Europe, qu'au moment où nous sommes, Louis XIV paraît avoir commis ses plus graves erreurs d'optique. Erreurs sur la réalité américaine, sur la situation de la Nouvelle-France en face des colonies rivales. Erreur sur les ambitions et l'avenir de l'Angleterre. Le roi n'a pas vu qu'encerclée comme elle menaçait de l'être, à côté des voisins qui étaient les siens, 10 000 colons français contre 200 000 anglo-américains, et bientôt 18 000 contre 400 000. La Nouvelle-France n'avait chance de subsister qu'à ces deux conditions irréalisables, vivre seul en Amérique du Nord ou vivre en paix perpétuelle. Hypnotisée comme ses prédécesseurs par le périostre espagnol, pas davantage Louis XIV, ne semble avoir prévu la grandeur prochaine et menaçante de l'Angleterre. Il a peu ou point pressenti, à ce moment-là du moins, la destinée de la nation anglaise, destinée de nation impériale, qui ne peut vivre confortablement sur son île trop exiguë et qui ne se gardera un œil sur l'Europe que pour mieux appliquer l'autre à son expansion dans le monde. Pour s'expliquer ce manque de vision, peut-être faut-il remonter à des causes encore plus lointaines et profondes. Un prophète politique qui eut à comparer les positions respectives de la France et de l'Angleterre en Amérique du Nord et calculer les chances de l'une et de l'autre de dominer le continent, écrit Seeley dans son Expansion of England, n'eut pas manqué de parier pour la première des deux rivales. La France possédait les deux grandes voies de pénétration à l'intérieur de l'Amérique. Par ces voies, elle pouvait capter les richesses de l'Interland et s'étendre presque indéfiniment. Elle pouvait de même coincés comme dans les crocs d'une pince les établissements anglais de la côte de l'Atlantique. Pourquoi donc l'histoire a-t-elle tourné autrement? Peut-être un parallèle entre les deux États et les deux pays nous pourrait-il éclairer. D'un côté, qu'il s'agit de l'Angleterre, voici, à l'époque des découvertes et des premiers établissements coloniaux, une monarchie déjà forte et riche, le règne des Tudors et des Stuarts, les premiers enrichis par le schisme, par leur mainmise sur les biens du clergé spolié. Sous les Scots et les Stuarts, une ère de révolution, mais où la monarchie anglaise reste encore puissante, soit qu'elle reconquiert toute son autorité sur le Parlement, soit que, ramenée à son rôle constitutionnel, elle ressaisisse son prestige. En France, à la même époque et jusqu'en 1660, une monarchie faible et pauvre, le règne des derniers Valois s'achevant dans les guerres de religion, Henri IV aux prises avec un royaume à restaurer et à recoudre, Richelieu, Louis XIII, usant leurs meilleures énergies contre les protestants et les grands apanagistes, absorbés dans une lutte titanique contre l'Empire austro-espagnol. Puis, une époque de régence et Mazarin aux prises avec les Frondes. En Angleterre, pour seconder le souverain, une aristocratie riche, elle aussi, de la spoliation des biens ecclésiastiques et de l'accumulation entre ses mains de la propriété terrienne. Aristocratie libre et active, qui joue dans le pays, dans sa vie politique, sociale, économique, un rôle de premier plan. Aristocratie de grands terriens, de grands éleveurs, de grands coloniaux, qui par ruse ou par force, fait échec à l'arbitraire royal, tient la haute main sur le Parlement et payant presque tout l'impôt, peut s'arroger le droit de gouverner. En France, une aristocratie plutôt pauvre et domestiquée, appauvri par les guerres, par l'afflux de l'or du Nouveau Monde et par la dévaluation des biens immobiliers qui s'ensuit, et parce que pauvres et pour rester classe privilégiée, aristocratie qui laisse le tiers-État porter presque seul le fardeau de la fiscalité, aristocratie sans rôle social depuis la dissolution de la petite communauté féodale, sans rôle politique, pratiquement rejetée des conseils du roi, mais amenée d'ordre à la cour, réduite au rôle de parure d'ornement mondain de la monarchie, aristocratie de parasites en somme, peu propre à soutenir ou à suppléer le roi dans ses entreprises coloniales, si même avec le temps, elle n'arrive à fournir les pires adversaires de l'expansion coloniale. Comparons-nous la position géographique des deux pays. Nous aboutissons à des résultats aussi décevants. L'île anglaise, naturellement prédestinée à l'expansion par mer, inscrite de par sa géographie dans la galerie des petits pays maritimes anciens et modernes, Phénicie, Grèce, Portugal, Japon, remis à la plus extraordinaire fortune. L'Angleterre, refoulée dans son île, rendue à sa vocation naturelle par la guerre de Cent Ans, éveillée précocement à cette vocation, puis mise à même d'accomplir cette vocation par la découverte de l'Amérique, qui lui vaut d'occuper, sur le nouveau bassin de la circulation universelle, une situation privilégiée. À l'encontre, la France, pays demi-maritime et demi-continental, articulé à la mer par trois façades, articulé à la terre par trois de ses frontières, pays à double vocation, en quête d'expansion, tantôt sur mer, tantôt sur le continent, condamné entre les deux à un perpétuel balancement, quand ce n'est pas un franc antagonisme, elle ne mettra de cohérence en sa politique coloniale qu'aux grandes heures de paix européenne, alors qu'il lui sera loisible d'oublier ou de dominer son dualisme géographique. Qu'avons-nous besoin de chercher davantage? Cette oscillation congénitale explique à elle seule, ou peu s'en faut, l'évolution de la politique du roi au Canada en 1672. Dans cette guerre de Hollande qui allait prendre une durée et des proportions imprévues, la France s'engageait trop en Europe pour se garder les mains libres en Amérique. Les armées françaises passaient de 70 000 à 279 000 hommes. La flotte grandissait dans les mêmes proportions. On comprend alors Colbert, exposant à talons la difficulté d'entretenir de grandes armées et de faire prendre en même temps de grandes colonies en des pays éloignés. On s'explique aussi l'étrange persuasion où essaie de se retrancher le roi que la Nouvelle-France a pris une telle augmentation qu'elle est maintenant en état de se soutenir par elle-même. Persuasion qui paraît bien de l'aberration quand le souverain ose écrire qu'il n'y a plus de nécessité d'envoyer au Canada de nouvelles troupes et qu'on en pourra même retirer celles qui y sont. Les historiens ont coutume d'imputer à la guerre de Hollande cette orientation funeste de la politique royale. D'autres incidents historiques, partout négligés, y ont contribué pour autant. Sans doute, Louis XIV a pour excuse ces guerres interminables dont celle de Hollande n'est que le prélude et où le grand règne va s'user. Mais 1672 ouvre aussi la période où le roi se laisse emporter par sa passion de magnificence. Dans la construction de Versailles, dans la réfection d'autres maisons royales, il va engloutir une grosse part des économies de Colbert. Les budgets déséquilibrés ne laisseront rien ou si peu que rien pour les colonies. Colbert va mourir en 1683. Colbert, le seul homme qui pouvait peut-être concilier les deux vocations de la France. La Nouvelle-France va donc cheminer. Elle va cheminer dans la guerre, elle va même cheminer dans la paix. La France a fait son grand effort en Amérique du Nord, elle ne le renouvellera plus. Désormais, elle supportera ses colonies, elle ne saura plus les porter. Défection déplorable. Une autre période va commencer, mélange de progrès et de recul, de grandeur et de faiblesse, surtout de faiblesse. De décade en décade, la Nouvelle-France prend la mine de l'adolescent qui, pour avoir trop grandi, se défend mal contre ses germes de mort. Non, la monarchie française n'a pas perdu le Canada entre les années 1755 et 1760. Dès 1672, le roi de France a commencé à travailler pour le roi d'Angleterre.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.